Alors, je voulais offrir quelques réflexions sur la complémentarité entre la science et l'art. C'est un des sujets qui n'a pas été beaucoup traité, dans le monde de la philosophie et tout ça. Et donc, la plupart de mes réflexions sont vraiment... pour moi, ils sont originels, c'est-à-dire que c'est mes propres idées, je n'ai pas puisé ça ailleurs. Alors voilà, je commence d'abord par une définition que peut-être vous allez avoir de mal à comprendre, mais on va, je l'espère, comprendre par la fin. Je définis d'abord ce que c'est la science. La science est la représentation abstraite du concret. Et l'art est la représentation concrète de l'abstrait. Donc ça, c'est la complémentarité entre la science et l'art. Alors, j'explique ça un peu. La science commence, comme nous savons, avec le concret, les observations physiques qui sont cernables, n'est-ce pas, qui sont cernées, mesurées et tout ça. Et graduellement, la science monte pour construire des théories de plus en plus élaborées, de plus en plus abstraites. Finalement, ces théories sont formulées dans un langage mathématique que tout le monde reconnaît est le langage le plus abstrait qui existe, n'est-ce pas? Donc, les fruits de l'étude scientifique sont représentés, encodés, si vous voulez, par les mathématiques, okay? Et ce code est extrêmement abstrait. Tellement abstrait, par exemple, que même un ordinateur qui n'est pas pourvu de sensibilité ou de subjectivité puisse traiter ces données, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça colle quand même relativement bien quand je dis que la science est la représentation abstraite du concret. Pourquoi, puisque le concret est déjà là, est-ce qu'on voudrait une représentation abstraite? Parce que ça montre comment les instances particulières, des choses concrètes, s'insère dans l'univers, c'est-à-dire ça crée des liens, ça crée des liens. Les abstractions créent des liens, des généralités qui nous permettent de voir les choses dans un contexte. L'abstraction dans un contexte. Okay. Donc on peut dire que la science commence avec des objets concrets, dépourvus de contexte, et graduellement la science construit un contexte pour mieux comprendre ces choses-là. Okay? L'art, mais justement, qu'est-ce que c'est l'art? Ben, c'est la musique, c'est du son, n'est-ce pas? Enfin, George Bernard Shaw, l'humoriste en anglais qui voulait se moquer de la musique, il a dit, la musique est la forme de bruit la moins désagréable. Alors, George Bernard Shaw said that music is the least obnoxious form of noise. He wanted to make fun of music. Alors, en tout cas, donc, l'idée, c'est quand même clair que la musique, c'est des sons. Et il n'y a pas de raison a priori que des sons purs aient des sens ou des significations, n'est-ce pas? Cependant, quand nous entendons jouer de la musique et tout ça, nous ressentons des émotions, il y a une certaine information qui passe, n'est-ce pas? Et même chose avec l'art, c'est-à-dire l'art visuel, les formes visuelles, la sculpture, la peinture. Mais voilà, voilà, nous avons un exemple qu'on a remarqué tout à l'heure, ok. Ça, c'est de l'art, ok. Alors, c'est une chose concrète, c'est de verre, ok. Et pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Mais je pense que la beauté de la chose communique quelque chose, n'est-ce pas? Ça communique un peu l'esprit de la foi bahaï et aussi l'esprit de la personne qui l'a fait. Alors, soyez certaine que je ne m'assois pas là, ok?
I think we should
read it. We should put it back, we should put it back, yeah. Ok. alors, donc, une œuvre d'art est une chose concrète, visible, palpable, n'est-ce pas? Une œuvre d'art est une chose concrète, mais qui représente quelque chose d'abstrait, comme des émotions, des sensibilités, des idées aussi. Et donc, l'art traduit l'abstrait, mais dans une façon non linéaire, c'est-à-dire d'une façon, si vous voulez, non verbale. L'art est la communication non verbale. Ok? Les formes, les sons, etc., les rythmes, tout ce que vous voulez. Donc l'art est une forme de communication, comme la mathématique est une forme de communication, le langage scientifique mathématique est un langage de communication qui donne priorité à l'exactitude, n'est-ce pas? Le langage mathématique est exact. Chaque mot a une et une seule signification. Le langage de l'art est non exact, elle est métaphorique. C'est-à-dire, le langage d'art invoque beaucoup de significations. Donc, en mathématiques, en sciences, chaque mot a une et une seule signification. Ça, c'est l'exactitude. Mais l'art représente une sorte de plénitude, si vous voulez, c'est-à-dire la capacité d'invoquer beaucoup d'idées en même temps. Le même objet peut provoquer beaucoup d'idées, de sensations, etc. Et il n'y a pas une seule bonne interprétation d'une œuvre d'art. C'est-à-dire, chaque individu répond un peu différemment à l'œuvre d'art. Donc, on ne peut pas dire quelle est la bonne, l'unique signification d'une œuvre d'art, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un peu la complémentarité entre la science et l'art. Alors, traditionnellement, ceux qui font la science ont eu une tendance à dénigrer un peu l'art, n'est-ce pas? C'est-à-dire à dire que la science, c'est une entreprise qui produit quelque chose, on construit des frigos, on construit des voitures, etc., etc. Et l'art, ben, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à rien, n'est-ce pas? Et puis, effectivement, dans notre société, les artistes vivent très pauvrement, n'est-ce pas? Sauf pour quelques-uns. Et les quelques-uns qui vivent bien ne sont pas les meilleurs non plus, n'est-ce pas? Ils sont les plus populaires, mais pas nécessairement les meilleurs. Donc, dans notre société, l'artiste est en quelque sorte en bas de l'échelle, parce que nous vivons dans une société très pragmatique qui donne beaucoup d'importance aux résultats immédiats, évidents, pragmatiques d'une chose. Combien ça coûte, combien d'argent ça produit, qu'est-ce que vous avez après que vous avez fait ça, etc., n'est-ce pas? Alors si vous avez dit, j'ai juste une forme que j'ai modelée avec mes mains, j'ai juste une peinture que j'ai faite, mais qu'est-ce que ça vaut? Enfin, vous n'avez rien construit de pratique, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, l'art n'est pas pratique, dans ce sens précis. Mais il y a d'autres cultures qui vénèrent les artistes. Et justement, la Russie, où ma femme et moi nous avons vécu pendant plusieurs années, 5 ans, si vous demandez des Russes qui sont les gens les plus importants, ils vont dire les artistes. Sans exception, vous demandez à un chauffeur de taxi à Moscou qui sont les gens qui, pour vous, sont les plus importants. Il ne va pas dire des joueurs de hockey ou les hommes d'affaires ou les hommes politiques, même les Olympiens. Il va dire les artistes, les écrivains, les danseurs, etc. Et ça, c'est... Donc, ça démontre que l'ordre, l'importance relative que nous donnons à l'art dans notre société n'est pas inhérent à la nature humaine. C'est-à-dire, il y a d'autres sociétés qui donnent la plus grande valeur à l'œuvre artistique. Et même si vous discutez avec les Russes là-dessus, par exemple, je continue ça, pas pour faire une leçon sur la Russie, mais simplement pour illustrer un peu la mentalité des gens qui pensent de cette façon-là. Si vous parlez avec les Russes, ils vont dire, mais bien sûr, parce que l'art, c'est la transcendance. Il dit, tout ce que produit la technique, ce c'est temporaire. Vous construisez une usine, tôt ou tard, cette usine va tomber. Que ça soit dans 5 ans ou 100 ans, ce n'est pas pour toujours, n'est-ce pas? Même Einstein a fait la chose suivante, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Einstein, qui était évidemment un très grand scientifique, hein, quand on a formé l'État d'Israël en 1948, Weizmann a demandé à Einstein de devenir le premier président d'Israël. Il pensait que ça serait un puissant symbole que ce grand scientifique juif soit le premier président de l'Israël. Alors, Einstein a refusé. Et il a dit, en refusant de devenir président, il a dit, la politique, c'est pour quelques jours, mais une belle équation, c'est pour toujours. C'est ça. Donc les Russes ont un peu le même sentiment à l'égard d'art, c'est-à-dire l'art reflète la transcendance. L'art reflète la transcendance, tandis que la technique, c'est fonctionnel, mais il n'y a rien de transcendant. Et donc, pour les Russes, ce qui n'est pas transcendant n'a pas de valeur. C'est-à-dire, justement, à l'antipode du Nord-Américain, disons de l'Américain, pour qui l'Américain va demander, si vous dites, cet homme-là est un grand artiste. Alors, c'est un homme très intelligent, il écrit des poésies, il fait des sculptures, je ne sais pas. La première question que l'Américain va demander, combien d'argent est-ce qu'il gagne? Ok? Alors il va dire, si cet homme est à ce point-là intelligent, pourquoi il n'est pas millionnaire? Alors si vous dites, mais cet homme serait éventuellement capable d'être millionnaire, mais il a choisi d'investir en autre chose, ben ça prouve qu'il est un con, n'est-ce pas? Un type qui est vraiment intelligent et qui serait capable de faire un million de dollars et qui décide de ne pas le faire, il est vraiment con, donc ça prouve qu'il n'est pas intelligent, n'est-ce pas? Tandis que pour les Russes, c'est juste l'opposé, ils disent les gens qui se dévouent, qui consacrent la vie à faire de l'argent et tout ça, à extorquer de l'argent les uns des autres et tout ça, c'est des gens qui perdent le temps parce que c'est destiné au néant. Tôt ou tard, ça va tous en aller, on va tous mourir, mais l'art, c'est pour toujours, c'est transcendant. Alors, je peux vous donner un petit peu une image de la relation entre la réalité concrète qui est l'aide et voir le reflet de la transcendance dans des objets concrets. C'est une image très simple. Supposons que vous vivez dans un taudis. Vous vivez au fond d'une poubelle, disons, une grande poubelle. Donc, il n'y a que la crasse tout autour, n'est-ce pas? Il n'y a que de la laideur, enfin, des choses. Enfin, tout ce qui est de plus laid, la crasse, l'ordure, ok? Mais vous avez un miroir. Et vous tournez ce miroir vers le ciel. De façon à refléter les étoiles. Et vous contemplez seulement ce miroir. Alors, la réalité qui vous entoure est parfaitement laide. Mais votre réalité intérieure, c'est transcendant parce que vous contemplez le miroir qui n'est pas tourné vers ces choses laides, mais qui est tourné vers les étoiles. Alors, ça, c'est une image de la fonction de l'art. C'est-à-dire, l'art nous met en contact avec le transcendant. Et donc, les gens qui voient le monde matériel simplement comme une chose à utiliser pour faire de l'argent, etc., pour manger, tout ça, c'est-à-dire on s'approprie le monde matériel, ok? on s'approprie le monde matériel. D'accord? On le possède, on l'approprie, on sert à nos fins, n'est-ce pas? On le domine, on l'approprie, etc. Mais l'artiste ne s'approprie pas du monde matériel. Ok? La possession n'a pas de sens pour l'artiste. Il utilise les mêmes objets matériels. Il utilise les mêmes objets matériels que nous qui l'approprions, ok? Mais il les utilise comme ce miroir pour refléter la transcendance. Donc, la société ou la vie humaine qui est basée juste sur les réalisations pratiques ou juste sur les réalisations scientifiques et intellectuelles est une vie donc qui n'a pas de place pour l'art, est une vie extrêmement pauvre qui manque, je dirais, la moitié au moins du sens de la vie, sinon plus, mais enfin, sûrement la moitié, ok? Et en plus, si on n'est jamais en présence de cette transcendance, si on n'est jamais lié à cette transcendance, alors, il y a quelque chose qui manque tout simplement à notre âme, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui manque à notre âme. Maintenant, juste une dernière chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques grands artistes. Ce n'est pas pour vous impressionner que je dise que c'est une chance que j'ai eue, enfin, si et là. Une des plus grandes que j'ai eu la chance de rencontrer, c'était Yehudi Menuhin. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin est violoniste, enfin, il est mort maintenant. Il est devenu célèbre à l'âge de 12 ans, il a fait le tour du monde, ça c'était dans les années 20. Il a joué à Berlin, devant Einstein. Einstein est allé sur la scène l'embrasser, il a dit, c'est une preuve de l'existence de Dieu, ce garçon qui joue. Parce qu'à l'âge de 12 ans, il jouait magistralement le violon, n'est-ce pas? Et donc il a fait toute une carrière, il est mort je pense dans la 80e. Et c'est un homme qui a pris son âge très doucement, bon, doucement, oui. Comme sérénement, oui, ça, voilà, merci. Et je l'ai rencontré à Budapest, il y a quelques années, juste peut-être 2 ans avant sa mort. Et la chose qui est drôle, c'est la chose suivante. Quand Benjamin, notre fils, qui, je pense que vous savez, est chorégraphe, quand Benjamin avait 11 ans, il avait écrit une lettre à Yehudi Menuhin. Et il avait dit, j'aime beaucoup votre musique, mais moi j'aimerais être un musicien rock. Il dit, c'est le rock and roll que j'aime le plus. Alors, il a demandé à Yehudi Menuhin, comment faire pour devenir un vrai rocker? Quels sont ses conseils de Yehudi Menuhin, le grand violoniste. Mais Yehudi Menuhin lui a répondu avec une lettre écrite à la main en disant que, il dit, j'imagine que l'acquisition de technique de la guitare serait utile pour devenir un rocker. Il dit, mais je vous prie de rester ouvert à toute forme d'art. Je vous prie de rester ouvert à toute forme d'art. Alors Benjamin, donc quelques années plus tard, enfin il est devenu danseur professionnel et tout ça, et puis maintenant il est chorégraphe et tout. Alors donc j'ai pu raconter cette histoire à Yehudi Menuhin à Budapest. Okay? J'ai dit, il ne se rappelait pas évidemment, mais il avait un camp pour des jeunes musicaux. Okay? Il avait un camp en Angleterre, donc il avait beaucoup de va-et-vient avec les enfants. Alors, j'ai dit, j'ai raconté l'histoire de la lettre, il a dit, ah oui. Il a dit, qu'est-ce que j'ai répondu? Et j'ai dit, ben voilà, mon fils est devenu danseur de ballet et chorégraphe. Alors, j'ai dit, donc, voilà encore un de vos effets, n'est-ce pas, en fait, de votre œuvre. Alors après, on avait parlé, et Peter Ustinov, l'acteur, était aussi là. Alors on avait une discussion un peu à trois, parce que Peter Ustinov, c'est un homme, il est acteur, mais il est très cultivé, c'est un homme extrêmement cultivé. Il n'est pas comme la moyenne des acteurs de Hollywood. Et donc, Ustinov et Minuin et moi, on avait une petite discussion à trois sur la nature de l'art. Et j'ai fait état de la chose suivante. Les découvertes scientifiques des derniers 10-15 ans ont démontré une chose surprenante. C'est que toute la réalité physique, c'est des vibrations, c'est des phénomènes ondulatoires, vibrations de différents niveaux. Les électrons sont en réalité des ondes. Toutes sont des ondes. Le monde est fait d'ondes. Ça, c'est littéralement vrai. Alors, j'ai dit ça à Menuhin, j'ai dit, je suis mathématicien de formation et... la mathématique, depuis les derniers 15-20 ans, nous avons eu des vraies percées et nous avons maintenant compris que tous les phénomènes matériels sont des ondes de différentes amplitudes et de différentes énergies. Et les choses plus solides sont des ondes de très haute énergie, etc. Et etc. Alors, j'ai dit donc, en quelque sorte, la musique représente toute la réalité, ou est capable de représenter toute la réalité. Alors, Menuhin aimait ça beaucoup, et il m'a fait la réflexion suivante, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Il avait dit, les vibrations musicales sont les vibrations les plus crues qui existent. C'est-à-dire, une corde qui vibre, c'est ce qui est le plus rudimentaire. Okay? Donc il dit, les vibrations qui font la musique sont de plus petit ordre, c'est les ondes de plus petit ordre qui existent. C'est des choses physiques qui vibrent, n'est-ce pas?
Élémentaire.
Voilà le mot. Merci Jacques. J'ai beaucoup d'aide ce soir. Oui. non, mais j'en ai besoin, je me rends compte. C'est ça. C'est ce qui est le plus élémentaire, les sons dont la musique est composée. OK? Parce que c'est la vibration des choses physiques, cool, enfin, comme le métal dans une trompette, ou etc., etc. Il dit, mais, il dit, les sur-ondes, enfin, overtones en anglais, sont infinies. Et ça, il a un passage dans les écrits d'Abouba où il dit exactement ça. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que, en faisant par exemple de la musique, dépendant de la perfection de l'art, de la musique, c'est toujours des sens, c'est toujours des vibrations de cordes, que ce soit Yehudi Menuhin ou n'importe qui. C'est toujours des vibrations de sang. Mais la perfection de l'art, c'est de pouvoir créer ces sur-ondes à l'infini qui montent vers le ciel. Et ça, c'est scientifiquement vrai. Ça c'est pas une métaphore, c'est vrai. N'est-ce pas? Donc, l'art nous connecte avec le monde spirituel. L'art, quand c'est perfectionné,
là, on parle d'art, tu parles plus de musique, parce qu'en fait, je me
sais que
la peinture...
Oui, on peut parler de ça, je prends tantôt l'exemple de la peinture, tantôt l'exemple des écrivains, tantôt l'exemple des musiciens, c'est tout l'art, n'est-ce pas? C'est toute la représentation concrète de l'abstrait. La musique, c'est des sons, c'est concrète.
Oui, mais un dessin, par rapport à ce que tu dis là, dans les ondes...
L'art, c'est une onde aussi, parce que c'est une vibration de la lumière, une peinture.
Exactement.
Une vibration de la lumière.
C'est ça.
Une culture aussi, c'est une
exactement.
Onde, c'est une
exactement.
Vibration de la lumière.
Et quand il a de l'harmonie, ça dégage. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai terminé ma présentation. Alors, oui.
continue, tu as dit.
Ben, c'est ça, la sculpture, on peut voir ça aussi comme un jeu de lumière. C'est un objet en trois dimensions. La lumière se réfléchit différemment.
C'est ça.
Mm-hmm. D'ailleurs, il y a des prétentions à l'effet que des pyramides auraient été transportées par des ondes, par des sons. Là. Il n'y a rien de prouvé. Là.
C'est ça, oui.
Parce que ça serait à peu près la seule explication, parce qu'on se pose encore la question de savoir comment des pierres d'un poids tel des tonnes ont pu être transportées.
Le problème avec cette théorie que je connais bien, c'est que comment est-ce qu'ils ont eu assez d'énergie pour produire des sons capables de soulever ces pierres, parce que ça prendrait une énergie incroyable, n'est-ce pas?
À la limite,
c'est
donc. Les parties élémentaires.
C'est ça.
On s'est dit qu'il y avait la perfection.
Non, mais c'est possible, bien entendu, mais je suis certain.
On pense que je fais toutes sortes de relations, mais qu'un chien, ça va entendre des sons qu'aucun
absolument, humain absolument.
Est capable d'entendre. Son oreille qui est faite de façon différente, oui. C'est son cerveau qui le perçoit différent. Alors la limite est où, tu sais? Moi, je laisse
non, bien sûr.
À ça. J'ai jamais ri de ça, cette théorie-là.
Non, j'ai jamais ri. Je dis simplement, selon toute la théorie physique que nous connaissons actuellement, et c'est encore limité, ça prendrait une énergie fou pour produire des sons capables de soulever les pierres. Donc ça prendrait, si vous voulez, autant d'énergie que de soulever la pierre par l'action des machines. Donc, mais, en fait, ce n'est pas impossible, non. Théoriquement, c'est possible, oui. Théoriquement, c'est possible, oui. C'est sûr. Oui.
Alors, est-ce que tu as terminé?
Oui, j'ai terminé, oui.